Henri, donneur de voix numéro 318 de la Bibliothèque sonore Grenoble Isère. Extrait de la lettre de confinement numéro 31 d'Olivier Calon. C-A-L-O-N. Le mot du jour. Résister. Résister à l'ennui, à l'enfermement, à l'angoisse de la maladie. Notre capacité de résistance est mise à rude épreuve par ces temps qui courent, immobiles. On résiste en France depuis 1250, époque à laquelle le mot est apparu, emprunté au latin résistere, qui signifiait faire face, affronter. Un verbe essentiellement guerrier à l'origine. C'est plus tard que résister a pris aussi la nuance de refuser de se soumettre, chez les humains d'abord, chez les choses ensuite. Le nom résistance, d'abord orthographié résistance avec un E après le T, a connu la même évolution de sens. Quant au mot résistant, avec un A après le T, il ne fut longtemps que le participe présent du précédent avant de devenir un nom à l'occasion de la dernière guerre. Le 18 juin 1940, dans son célèbre message lu à la BBC, le général de Gaulle déclarait « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Résistance. De nom commun, avec un petit R, le mot devint rapidement un nom propre, avec une majuscule, et créa le nom « résistant ». Oscar Wilde dit « Je peux résister à tout, sauf à la tentation. » La pensée du jour, de Roger Martin Dugard. La vie serait impossible si l'on se souvenait de tout, mais le tout est de choisir ce que l'on doit oublier. Le poème du jour. Dimanche, de Jacques Prévert. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains, et la statue m'embrasse, mais personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Anecdote littéraire. Jeune, Gaston Leroux, né en 1868, hérita d'une petite fortune qu'il dilapida en quelques années. Contraint de travailler, il devint reporter au Matin. Pendant une brouille avec le directeur du journal, il écrivit le premier épisode des aventures extraordinaires du reporter Joseph Joséphin, dit Boîte à billes. Une homonymie l'obligea à modifier le nom de son héros en Rouletabille, sous peine de procès. Ses aventures et les épisodes qui suivirent connurent un immense succès populaire. Des hommes sandwich étaient même utilisés pour informer le public des rebondissements de l'histoire en cours. Avant de commencer un roman, Gaston Leroux écrivait deux phrases. Puis il racontait une histoire débutant par la première et s'achevant par la seconde. Pour écrire en paix, il s'enfermait dans son cabinet de travail et obligeait sa maisonnée à garder le silence. Son texte achevé, il tirait un coup de revolver à sa fenêtre. Ce signal annonçait le retour de Gaston Leroux à la vie familiale et publique. À l'été 1914, l'auteur du Parfum de la Dame en Noir et du Mystère de la Chambre Jaune, quel plus bel exemple de crime parfait commis dans un lieu confiné, s'était engagé à livrer au journal l'illustration, contre 15 000 francs or, la quatrième aventure de Rouletabille, le plus grand mystère du monde. Mais, quelques jours plus tard, la Première Guerre mondiale éclata. Le roman ne parut jamais, mais Leroux garda l'argent. Anecdote historique. Pendant 15 ans, malgré l'insistance des historiens et des archéologues, Staline refusa de donner son autorisation de fouiller la tombe de Tamerlan, le fameux conquérant qui vécut au XIVe siècle, situé à Samarcande. Finalement, les travaux purent commencer le 16 juin 1941. Le 22, la découverte d'une superbe dalle funéraire de jade vert sombre confirma l'identité du célèbre défunt. On souleva la dalle et les archéologues découvrirent que Tamerlan n'était pas le petit homme brun trapu représenté un peu partout après sa mort, mais un grand roux affligé de nombreuses déformations osseuses. Ils mirent aussi à jour une longue épitaphe écrite en arabe qui se concluait par cette phrase: à celui qui ouvrira ce tombeau, il arrivera un grand malheur. Or, ce même jour, le 22 juin 1941, l'armée allemande pénétrait, par surprise, en Union soviétique avec 180 divisions et 3000 avions. André Malraux se plaisait à raconter cette histoire, peut-être véridique.